Ouverture.
Je regarde s'ils sont présents, et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé. Humilié. Déshumanisé.
200 000 francs la télé.
Un maton.
Dans les cours de promenade.
Un maton.
Des miradors.
Un maton.
Des psychologues.
Un maton.
Bonjour.
Bonsoir.
Salut.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Papillon sur le 89.5 de Radio Dio. Donc, l'émission Papillon est une émission qui est un lien entre le dedans et le dehors. Des prisons, bien sûr. Nous vous sollicitons pour nous faire part de toutes sortes de courriers que vous pourriez nous envoyer pour nous parler un petit peu de votre vie en prison, de votre vie de proche de prisonnier. Alors, pour ça, on a une adresse qui est le 14, alors Radio Dio, émission Papillon, 14 rue de Roubaix, BP 51, 42002 Saint-Étienne, CEDEX 1. On peut aussi nous écrire de façon plus moderne sur Internet à émission papillon en un seul mot, @riseup.
Ah, là bien.
R-I-S-E-U-P, je traduis quand même parce que c'est pas évident, .net. Donc aujourd'hui, nous avons quelques brèves. Et puis une lettre d'un détenu longue peine, puis un petit aperçu du colloque que nous avons organisé.
Pourquoi pas un séminaire ?
Un petit colloque, c'est bien colloque, non ? Que nous avons organisé samedi 28 novembre. Et on finira encore par quelques brèves sur...
Qui est aussi autour des longues peines.
Voilà, oui, bien sûr, le colloque. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à notre camarade Elsa qui va nous donner une petite brève.
Oui, donc merci beaucoup, Olga, pour cette intro passionnée. Donc là, on va attaquer quelques brèves. Moi, je voulais parler d'une accusation en diffamation contre une association qui s'appelle Banc Public. Donc, l'administration pénitentiaire, apparemment, n'aime pas les critiques. Bon, ça, on le savait, mais c'est encore une nouvelle preuve. Donc, on fait beaucoup de blabla dans les médias sur la prison. Mais en fait, quand c'est des critiques directes contre l'administration, elle n'aime pas. Donc, la comptable du centre de détention, ou centre pénitentiaire, du centre de détention de Melun, a attaqué en justice pour diffamation l'association Banc Public et François Corbert. Il passait en procès le 26 novembre. Donc j'explique vite fait. Banc Public, on en parle souvent. Et si vous avez accès à Internet, je vous conseille d'aller sur leur site, qui est donc l'adresse est prison.eu.org. Voilà. Et Banc Public, en fait, ils rassemblent des tonnes et des tonnes d'infos sur la tôle. Leur but, c'est de communiquer sur les problèmes liés à la détention et à l'incarcération. Et vraiment, on peut trouver plein d'infos et de contacts sur leur site. C'est pas mal, quoi. Et donc, eux, Ils existent en plus depuis 10 ans, donc le jour de leur anniversaire, plus ou moins, ils sont attaqués en diffamation. Pourquoi ils sont accusés ? On en a déjà parlé vite fait. C'est François Corbert, un ancien détenu qui est sorti en avril, qui a fait de très longues peines, qui a 57 ans et qui a passé à peu près la moitié de sa vie en tôle, qui en sortant a dit, texto, alors je vais essayer de trouver, voilà. Il a dit « Mon but, c'est de me servir des tribunaux pour conquérir de nouveaux droits pour les détenus ». Et lui, il s'attaque surtout au racket, ce que lui, il appelle un racket des détenus par l'administration, c'est-à-dire, entre autres, la télé. Donc, en gros, il explique, alors c'est un peu long et peut-être compliqué à comprendre quand on n'est pas à fond dedans, mais en gros, les prisonniers doivent louer une télé et c'est super cher, alors que lui, il aurait bien voulu pouvoir en acheter. Enfin, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais voilà. Donc lui, sa lutte, bon, a priori, elle peut faire presque sourire, c'est que les prisonniers aient droit d'acheter une télé et à un prix raisonnable. Et en fait, derrière tout ça, il essaye de démonter tout le système des cantines. Donc c'est l'espèce de magasin intérieur à la prison par lequel les prisonniers peuvent acheter des choses. Et c'est super cher et c'est super mal fichu. Donc il essaye de démonter tout ça, de dire c'est du racket. En plus, entre les prisons, il y a des grosses différences de prix, de fonctionnement, des réglementations qui sont pas toujours très claires, etc. Et lui, il a décidé de s'attaquer à ça par le biais des tribunaux. Et pas que pour lui. Donc lui, en gros, il avait fait un procès à l'administration pénitentiaire pour extorsion de fonds. Voilà, donc c'est quand même, ça peut prêter à sourire, je trouve, mais...
Non, moi je trouve qu'il est super courageux, quoi.
Voilà, c'est courageux, puis il est tenace, le garçon. Et donc, Banque Publique relaye ses luttes. Donc déjà, si ça vous intéresse, il faut aller voir du côté de Banque Publique. Banque Publique relaye ses combats, il y a plein de documents là-dessus. Et donc, Banque Publique est attaqué en diffamation par la comptable de la prison de Melun. Donc, heureusement, l'histoire finit bien. Il passait en procès le 26 novembre, donc la semaine dernière. Et la personne qui les accusait, elle a, en gros, elle a mal fait sa procédure et la procédure est annulée. Donc tant mieux pour eux. Et quand même le plus, j'allais dire cocasse, mais c'est pas vrai, mais le plus marquant dans l'histoire, c'est que François Corbert, il a dit dans des médias, moi je suis dégoûtée parce que j'aurais bien aimé que ce procès soit une tribune pour parler de comment l'administration rackette les détenus. Donc voilà, et lui, il continue sa lutte. Il a fait une association qui s'appelle Robin des Lois. Et voilà, il continue. Et il voudrait que plein de prisonniers s'adressent à lui pour qu'il fasse des recours en leur nom, etc., etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que si ça vous intéresse d'en savoir plus, parce que moi, la lutte pour la télé en prison, c'est pas le truc qui me passionne le plus, donc j'en parlerai pas plus. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez nous écrire et on vous passera toutes les infos. Si vous n'avez pas internet, par exemple, parce que vous êtes en prison, on peut vous envoyer par papier, par la poste, toutes les infos. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est peut-être pas tant sur le problème de la télé qui est louée, mais c'est à chaque fois, tout est loué, quoi. Le frigo est loué, comme tu disais, la cantine, tout est plus cher. Ben c'est, moi, je trouve que c'est un combat qui est honnête et qui vaut le coup, quoi. Parce que c'est... non seulement t'as pas de revenus, mais en plus, c'est toi qui raques, quoi, quand t'es prisonnier.
Oui, en fait, peut-être que la télé, ça peut paraître, a priori, une lutte pas super intéressante, mais ça démontre aussi le fonctionnement de la prison, qui est à la fois comment se faire du fric sur le dos des gens, et la prison, c'est aussi ça, quoi. C'est, en même temps, on enferme des gens pour des raisons plus que douteuses, et en plus, on se fait du fric sur leur dos, quoi. Et du coup, ça peut aussi révéler ça, quoi, l'histoire de la télé.
Apparemment, il y a des réductions là, sur la télé. Elle va coûter moins cher.
Oui, voilà. Sa lutte a payé et les choses ont avancé. Je ne détaillerai pas plus, mais voilà. Bonne chance, François, et longue vie à Banque Publique.
Voilà. Bon, on va enchaîner avec... alors, est-ce que mon micro marche bien, déjà ?
Très bien.
Bon, c'est parfait. Alors, on va enchaîner avec ce qui s'est passé à Corba, à la prison de Corba, les deux derniers week-ends, les deux derniers dimanches, en l'occurrence. Alors, la prison de Corba, dans la banlieue lyonnaise, c'est celle qui a remplacé les prisons Saint-Paul-Saint-Joseph à Lyon, et qui a ouvert début mai. Début mai 2008. Donc ce qui s'est passé, il y a eu un premier mouvement le dimanche 22 novembre où 200 détenus, à la suite, à la fin de la promenade, ont refusé de réintégrer leurs cellules. Et tout ça, sur le coup, c'était à peu près 15 heures à la fin de la promenade, quoi. Donc, suite à ça, il y a eu 2 heures de négociations avec la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire. Et sur les 200 détenus, 70 sont restés et ont refusé de réintégrer leurs cellules. Du coup, l'administration a appelé les ERIS, donc les équipes régionales d'intervention et de sécurité, qui sont intervenues. Et du coup, le calme est revenu sur le coup des 21h, avec aucun blessé apparemment, chose qu'on n'a pas pu vérifier, parce que ça, c'est des choses qu'on a lues dans la presse, en gros, quoi.
Moi, j'ai eu des bruits que, justement, après, il y en a qui ont reçu des coups, quoi.
Ouais, bah ça, oui. En même temps, quand ils interviennent, c'est assez surprenant que ça se passe pas. Mais j'ai essayé de voir, apparemment, c'est s'ils disent qu'il s'est rien passé, en gros. Mais il y a quand même 5 détenus, suite à ça, qui ont été transférés en quartier disciplinaire. Donc voilà, la semaine d'après, c'est-à-dire le 29 novembre, donc le dimanche d'après, cette fois, c'est 45 détenus de tous les bâtiments. Donc de 200, ils sont passés à 45. Mais bon, il y avait quand même 45 détenus qui ont refusé de remonter en cellule suite à la promenade. Voilà. Donc il se trouve que cette fois, comme l'administration pénitentiaire était préparée, disons qu'elle se doutait que le mouvement allait reprendre, au dire des syndicats de Mâcon. Et du coup, les ERIS sont intervenus cette fois-ci directement. Il n'y a pas eu de négociation possible. Et à 17h, tous les détenus sont été rentrés en cellule, quoi. Donc voilà. Alors du côté des Mâcon, il y a l'UFAP et la CGT pénitentiaire qui parlent encore du manque de personnel. Surtout, ce qui est assez drôle, c'est que il y a 40% du personnel qui n'était pas là pour cause de grippe. Comme quoi, ça a du bon. Hein. Ne vous vaccinez pas, les Mâcon, surtout. Et du coup, voilà, la veille du premier mouvement, c'est-à-dire le samedi, il y a eu une agression de Mâcon de la part d'une vingtaine de détenus, pareil à la suite d'une promenade où un Mâcon s'est un peu fait lyncher par une vingtaine de gars, insulté, craché dessus, etc. Et il y a plusieurs incidents comme ça, donc pour eux, voilà, la cause, ce serait le manque de personnel, etc. Alors, toujours pareil, ces Mâcon qui ont été interrogés par la presse ont dit que ce mouvement était, bon, à peu près, il n'y avait pas de revendication particulière à ce mouvement, en fait, et que c'était en gros, il n'y avait pas de raison particulière. Alors, bon, je me suis un peu renseigné, il se trouve qu'il y a quand même, on ne fait pas un mouvement comme ça pour rien, quoi. Donc en gros, il y aurait trois raisons principales par rapport à ça. C'est que, alors il y a notamment la lourdeur des déplacements, c'est-à-dire qu'en gros, vu que c'est quand même une nouvelle prison, c'est ultra sécuritaire, les déplacements sont calibrés, où on évite que les détenus se rencontrent, se croisent, etc. Et du coup, il y a des dysfonctionnements dans les portes, parce que bon, c'est prison moderne, mais une prison moderne qui marche pas. Donc tout prend des heures pour aller au parloir, ça prend des heures. Du coup, il y en a même qui ont loupé leur parloir à cause de ça. Donc voilà, tout prend des heures, c'est lourd, etc. Il se trouve qu'il y a même apparemment même les gens du SPIP et les aumôniers par exemple, donc en gros les intervenants, qui ne viennent pas parce que du coup ou ils ont peur de rester enfermés à l'intérieur, parce que des fois les portes s'ouvrent plus, ou alors ils peuvent pas voir, dans une journée ils devaient voir par exemple une dizaine de détenus, ils arrivent à en voir que deux parce que le temps de passer toutes les portes, etc. Voilà, donc on imagine, ça c'est pour les intervenants, mais on imagine ce que ça peut créer aussi, la tension que ça peut créer au niveau des détenus quand on peut pas aller voir notamment son avocat, etc. Enfin bon, bref, il y a plein de dysfonctionnements par rapport à ça. Donc voilà, il y a aussi une autre revendication qui était la bouffe qui est dégueulasse. Donc je suppose que comme c'est une prison gérée entièrement par le privé, je pense qu'ils doivent faire des petites économies sur la bouffe. Du coup voilà, et aussi le système des cantines qui marche pas du tout. On sait par exemple que dans plusieurs bâtiments, il y a des détenus qui arrivent pas à avoir la presse, quoi. Alors la personne que j'ai, à qui j'ai demandé ne savait pas pourquoi, pour quelle raison, si c'était un refus du personnel de distribuer la presse ou si c'était dû à un dysfonctionnement. En gros, voilà, il y a un bâtiment qui a accès aux journaux, etc., qui peut cantiner comme il veut, et l'autre qui galère complètement et qui peut, et qui, voilà, les cantines marchent pas, quoi. Donc voilà, il y a aussi tout ce qui est manque d'activité. En gros, il se passe rien, il y a pas grand chose. Apparemment, la bibliothèque, c'est pareil. Il y a un bâtiment, il y a un problème. Alors ça, j'ai pas trop compris, mais il y a un problème de centralisation de données, etc. Ce qui fait que il y a un bâtiment qui avait accès à une bibliothèque et les autres n'avaient rien. Les sorties au sport, etc., c'est pareil. Voilà. Bon, après on m'a dit que le travail aussi, il y en a beaucoup qui veulent travailler mais qui arrivent pas, qui peuvent pas parce qu'ils n'ont pas toutes les places. Et pour revenir à la bibliothèque, il y avait justement apparemment au procès de Christophe Kider qui a eu à Lyon récemment. En gros, la bibliothèque, il y a 3,5 livres et il n'y a pas grand chose, quoi. Donc voilà. Ensuite, alors en fait, c'est quand même un truc qu'on peut...
Oui, moi je voulais dire, ce qui est quand même complètement dingue, c'est qu'en fait, pour avoir des activités, l'administration pénitentiaire compte sur des bénévoles. Il n'y a rien qui est organisé par l'administration. Ils n'ont pas de thunes.
Là-dessus aussi. Hein,
voilà, en fait, s'il n'y a pas des groupes de personnes qui viennent par eux-mêmes consacrer du temps... Eh ben, il se passe rien, quoi. Et ouais. Ça, moi, je trouve que c'est complètement dingue.
Oui, voilà. Mais les sous, c'est pour réparer les portes.
Ouais, parce que les portes marchent pas. Hein. Bon, voilà. En fait, c'était juste pour conclure là-dessus, en fait, un petit ressenti par rapport à ça. En fait, il se trouve que même les détenus, d'après ce qu'on m'a dit, et de sources sûres, les détenus en sont à regretter la prison de Saint-Paul-Saint-Joseph, qui faisait quand même la une de plein de reportages, etc., qui était quand même assez connue pour sa vétusté, qu'elle était vraiment dégueulasse, et que là, cette prison, elle est toute neuve, mais les détenus en sont à regretter la prison de Saint-Paul, quoi. Et honnêtement, déjà, il y a un truc, c'est qu'il n'y a pas les bruits de la ville, et ça, il y a plusieurs détenus qui le disent, que c'est un endroit silencieux pour y être allé devant, ça pue la mort, c'est vraiment un tombeau, c'est d'un silencieux, c'est excentré de tout. C'est une architecture d'une froideur impressionnante et cette tôle fait vraiment flipper, quoi. Honnêtement, c'est assez impressionnant et donc voilà. Et ouais, ça pue la mort tout simplement. Et donc après, si les matons disent qu'il n'y a pas de revendication particulière, c'est pour des choses globales, mais bon, voilà, quoi. Donc normalement, ils ont menacé la semaine dernière de reconduire le mouvement aujourd'hui. Donc on vous tiendra informé de la suite des événements, mais bon, c'est quand même assez rare en ce moment qu'il y ait des mouvements dans les tôles, et voilà, il se trouve que c'est dans les nouvelles, et que voilà. Donc, ouais.
D'ailleurs, on peut que saluer justement cet acte, parce que vu le peu de mouvement qu'il y a dans les prisons, c'est assez chouette.
Bon, moi, je sais pas, ils m'entendront pas, mais je les encourage vraiment à continuer, et en plus, surtout, j'espère qu'on arrivera à en savoir un peu plus, et essayer de faire un peu de bruit si ça continue par rapport à ça, ce sera bien.
Et puis, essayer de savoir aussi s'il y a eu des communiqués écrits, un communiqué collectif de la main des prisonniers qui a été fait. Enfin, si vous avez eu vent, que par hasard vous nous écoutez, que vous avez eu vent de ça, vous avez un proche ou quoi, on espère toujours, et n'hésitez pas à nous le faire passer et on passera à l'antenne.
Voilà, donc okay. On va passer à un petit morceau de musique.
Alors, lui, on le dédicace à tous ceux qui se font mater à l'intérieur comme à l'extérieur en permanence. Et ça s'appelle Big Brother et c'est de Calvin Russell. Vas-y, tu peux envoyer. Oh, I just don't understand. None of your politics, and I just can't trust no politicians. They're always looking for some kind of number so that they can trace what we've been doing. Big Brother, Big Brother, Big
Are you watching me? They got a file on me, and I don't know what's in it. And there's a chip in my telephone. I saw it all on 60 Minutes. Oh, they're closing in on me with electronic precision. It makes me so nervous, and my heart rate has risen. Oh, Big Brother, Big Brother, Big Brother, are you watching me? Watching me.
Vous êtes toujours sur Radio Duo 89.5 et c'est l'émission Papillon, donc qui parle de la prison et de manière générale. Alors maintenant, on avait envie on avait pensé pour cette émission reparler un peu des longues peines et des quartiers d'isolement, donc par rapport à la campagne qui a eu lieu un peu partout en France au mois de novembre. Et on voulait vous proposer la lecture en fait d'une lettre qui est parue en mai de cette année et qui vient en fait d'Omar Topelhadj, qui est en fait le co-détenu avec qui Christophe Kieder s'est évadé de la centrale de Moulins. Et pour son consuivi, donc c'était à la base par rapport à cette évasion donc en février 2009, que la campagne contre les longues peines et les quartiers d'isolement a pris forme. Donc voilà, cette lettre, en fait, elle a été écrite à l'intention de ses avocats et par la suite pour le ministre de la Justice, du garde des Sceaux et puis voilà de toutes les personnes intéressées. Et cette lettre, au final, elle a été peu médiatisée. Donc on a eu envie de proposer la lecture, d'autant plus qu'elle est... super intéressante, très glauque, mais vraiment très intéressante. Voilà.
Il l'avait pas envoyé officiellement à le site d'information Bakchich.
Voilà. Et en fait, on l'a trouvé le seul média en fait ou site d'information qu'il a apparemment publié, c'est le site Bakchich. Donc pour ceux qui écouteraient la lecture et qui seraient à l'extérieur et qui auraient accès à Internet, si vous voulez prendre plus le temps, elle est sur ce site là. Voilà.
Omar Top, prisonnier en quartier d'isolement à Fleury-Mérogis, communique à mes avocats Pierre Lombroso, Philippe Déopio et Philippe Sèvres la présente déclaration à l'intention du ministre de la Justice, du garde des Sceaux et des humains qui la liront. Des dizaines de milliers d'individus sont ensevelis vivants dans ces tombeaux d'isolement et les cachots de la République. Afin de ne plus souffrir d'être isolé de mes frères humains, je préfère renoncer à vivre à l'âge de 30 ans. En conséquence, je demande à Madame Rachida Dati que je sois euthanasiée. Sans la possibilité de parler à un ami et de le voir, sans contact humain, à quoi bon endurer ce calvaire plus longtemps ? Ce supplice nie le besoin ontologique de sociabilité et d'affectivité. Cette perversité d'infliger une torture psychologique raffinée a été relatée par Stefan Zweig dans Le joueur d'échecs. La torture blanche, invisible en apparence, stigmatise le corps au plus profond de l'être et laisse des séquelles psychologiques. Cette somatisation se révèle par des mutilations plus ou moins importantes jusqu'au nihilisme du suicide. D'après les psychiatres, lorsque le langage est interdit, les capacités cérébrales diminuent. Sans l'expression, on intériorise sa souffrance qui ne trouve d'exutoire qu'à travers des gémissements, pleurs et hurlements qui hantent les nébuleuses pénitentiaires. On entend notamment les cognements de tête contre les murs, les portes et les fenêtres à des centaines de mètres des enceintes de la honte. Dans ces lieux dits disciplinaires et d'isolement, on croupit pour des durées de 1 mois et demi à 3 mois, renouvelables à l'infini, grâce à des transfèrements de prison.
Cela fait perdre toute notion spatio-temporelle. Ce régime brise les liens familiaux, sociaux et les individus qui le subissent. On ne voit jamais d'autres détenus. On ne côtoie que des tortionnaires et des observateurs indifférents de notre souffrance, car ils ne l'éprouvent pas. L'emprisonnement est l'exclusion de la société, l'isolement est l'exclusion de l'espèce humaine. C'est une vengeance sournoise qui fait préférer le suicide à de nombreux jeunes que l'on retrouve pendus dans les cellules de cachot et d'isolement, immolés par le feu, vidés de leur sang, empoisonnés ou asphyxiés par les fumées d'incendie. Les meurtres des matons, suite aux agressions qu'ils exercent sur les personnes à leur charge, sont maquillés fréquemment en suicide. Nombreux sont les pendus pleins de contusions sur le corps, comme il y a peu, au mitard de la centrale de Clairvaux. Pour la dignité humaine, il faut abolir cette violence barbare, institutionnalisée, préméditée et orchestrée scientifiquement pour écraser l'individu. Dans les prisons françaises, on traite les humains comme des bêtes sauvages, qu'annihile cette arène ignominieuse, grâce à l'opacité de ses murs. Pour dissimuler ce massacre de milliers et de milliers de jeunes, on invoque la sécurité des établissements pour empêcher les médias de filmer librement afin de révéler aux Français et au monde ce scandale. Un rapporteur déplore chaque année les conditions inhumaines, rien ne change pour autant. Le droit élémentaire à la parole, la sociabilité, la dignité des individus ne sont pas respectés. Les enchaînements aux pieds et aux mains, allongés sur un lit, sont monnaie courante. Des dizaines de surveillants, avec des combinaisons de CRS et des boucliers, promènent les détenus avec une aisse pour chien, attachée aux pieds et aux mains. Les mises à nu et les brimades quotidiennes sont imposées avec des accroupissements, en toussant, des ordres de se passer la main entre les fesses et de mettre ses doigts dans la bouche. Les gardiens malaxent les cheveux. On humilie avec 4 mises à nu par jour avec un rituel de pantin qui consiste à lever les bras, ouvrir la bouche, tirer la langue, écarter les jambes et soulever latéralement les jambes. Soulever les pieds, se baisser et tousser. Passer un doigt derrière ses lèvres et soulever ses parties génitales.
Il y a des palpations brutales et des passages avec détecteurs de métaux au portique de sécurité. Cette atmosphère invivable est créée pour terroriser. Toutes les 30 minutes, un projecteur réveille avec le bruit de l'œilleton du voyeur. Les rires des gardiens ne cessent pas de la nuit, avec le soudage des barreaux qui sont tapés violemment, avec des barres en fer matin et soir, avec le claquement des verrous, portes et loquets. Cette torture par le bruit et la lumière pour empêcher de dormir était pratiquée pendant la guerre d'Algérie et constitue une incitation au suicide. Au mitard, on souffre toujours de la faim. On n'a plus le droit d'acheter de la nourriture. Les 2 repas sont insuffisants pour un adulte, d'une quantité et d'une qualité dignes de la famine. On termine le repas et l'on a encore faim. À l'isolement aussi, la quantité est insuffisante et l'on ne peut pas bénéficier de la solidarité des détenus car rien n'est autorisé de s'envoyer entre détenus. Les grilles aux fenêtres interdites par l'Union européenne abîment les yeux. Quand il y en a, les fenêtres sont condamnées. On ne peut pas respirer dans ces cercueils. Tout le mobilier est soudé au sol. Cet enfermement ne correspond plus seulement à la privation de liberté, mais c'est une privation de vivre. La personnification d'une justice élégante dissimule en fait une justice qui ensanglante. Les milliers de jeunes et de pères et mères acculés au suicide chaque année démontrent que ce modèle archaïque a atteint ses limites. Je réclame la fermeture sans condition des quartiers disciplinaires, des quartiers d'isolement et de tous les autres quartiers déguisés sous d'autres appellations de quartiers protégés et de quartiers d'arrivons où l'on est isolé. Les tortures de l'isolement sous toutes ses formes et selon toutes ses durées ne conviennent plus à des sociétés civilisées au XXIe siècle. Ces pratiques rétrogrades, infâmes, vont à l'encontre de tous les droits à la dignité et sont assimilées à des tortures. Ce n'est pas la quantité plus ou moins importante de souffrances infligées qui est éducative. Eladj Omar Top.
Voilà, donc je rappelle, c'était la lecture d'une lettre de Omar Top Eladj qui s'est évadé de prison de Moulins, donc avec Christophe Kider, c'était en février 2009, voilà, et qui, quelques mois plus tard, vu qu'ils ont été repris tous les deux, Au bout de 2 jours, bah, quelques mois plus tard, il a écrit cette lettre depuis le quartier d'isolement de Fleury-Mérogis. Donc c'est important d'entendre cette description-là de la tôle plutôt que ces documentaires et reportages et films bidons qui nous font croire que le seul problème en prison, c'est la moisissure dans les douches. Donc voilà, on va faire une petite pause musicale. On va écouter de la surf music avec Agent Orange. C'est tout. Donc on va tout de suite enchaîner avec un espèce de petit compte-rendu sonore de la journée qu'on a organisée samedi dernier, le 28.
Du colloque.
Le colloque.
Séminaire.
Oui. Séminaire ou je ne sais trop quoi d'autre. Et voilà, donc c'est toujours sur les longues peines et les quartiers d'isolement. On vous en parle depuis plusieurs émissions. Et ça fait bien écho aussi à tout ce qu'on a dit avant, autant sur ce qui se passe à Corba que la lettre de Omar Topelhadj. J'en trouvais qu'elle allait très bien en introduction. Donc voilà, on va tout de suite s'écouter ça. Donc c'est des extraits de la journée de samedi 28. Novembre 2009, local La Dérive à Saint-Étienne. Le collectif Papillon organise une journée contre les longues peines et les quartiers d'isolement. Morceau choisi.
Catherine Charles, présidente de l'ARPI.
L'ARPI, Association pour le respect des proches de personnes incarcérées. Au moment où je l'ai monté, j'avais 2 fils en prison. Donc un qui était condamné à 30 ans, 38 ans là, au départ, 38 ans de prison. Et le second qui s'est fait condamner... qui en 2001 a été chercher son frère avec un hélicoptère au-dessus des prisons de Fresnes pour sortir son frère aîné. Donc j'avais 2 fils en prison et je voyais des tas d'horreurs, enfin je les savais puisque moi-même quand j'étais jeune je suis allé en prison aussi un petit peu. Et je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce que je fais avec tout ça quoi, où je m'effondre ou faut que ça serve à amener une réflexion là-dessus. Alors au départ je suis allé à l'Envolée et puis il y a un an, ça a pris forme et on a monté cette association. Enfin, j'ai monté avec cette association avec aussi des avocats qui un peu les dissidents, je dirais, des avocats. Donc, ces avocates courageuses sont arrivées et puis on a vu qu'on pouvait faire quelque chose et commencer à travailler, à dénoncer, enfin à faire du bordel parce que c'est ce que je fais le mieux, c'est de faire du bruit. Et mais ça a permis aussi en faisant du bruit de pas laisser des situations pourrir dans le silence et dans l'oubli. Donc je me suis dit, il y a peut-être une possibilité de, en réunissant des énergies, en faisant croiser les compétences, de faire quelque chose. Et au mois de février, mon fils aîné s'est évadé de la prison de Moulins-Isère à coups d'explosifs. Et il a pris une bombe, deux jours après de l'en rattraper, il a pris une balle dans le poumon. Et au réveil, sa première phrase, ça a été « J'espère que ça va servir à quelque chose ». Donc on a vu que c'était pour les gens qui ont vu dans les médias, ou entendu, que c'était quand même un truc un peu suicidaire. Quand même, ça se prépare normalement des choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai proposé l'idée de mobilisation. Voilà. Donc avec l'ARPI, l'idée aussi première, c'est qu'il y a beaucoup de structures d'accueil des familles de proches pour les prisonniers. Ces structures d'accueil qui ont lieu d'être, hein, où vous buvez un café avant de rentrer dans les prisons, où ils vous donnent une boisson chaude, des indications. Mais à partir du moment où vous quittez ces accueils et le moment où vous rentrez en prison, vous êtes seul, quoi. Il n'y a personne pour vous accompagner, il n'y a pas de visibilité, il n'y a que vous. Je me suis dit, donc, l'idée, c'est de dire à toutes ces familles et ses proches, on va monter une association où personne ne va parler à notre place, où il n'y aura pas de théoriciens, où il n'y aura pas de suppositions, et on va se prendre en charge avec nos propres moyens. Mais alors, il faut savoir que c'est très compliqué, parce que le travail en amont par l'administration pénitentiaire a été tellement bien fait, c'est-à-dire que quand vous vous mobilisez dehors, ou que vous prenez votre... pour des détenus même, leur vie en main, et par exemple, ils vont faire des procédures ou des choses comme ça, ou je ne sais quoi, il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en forme de chantage, où on vous dit, si vous ne restez pas tranquille, vous allez être transféré. Mais ça use des familles, en termes financiers, en termes physiques, c'est des journées de travail foutues, etc., etc. Donc, je vais en finir. L'idée, c'était de réunir toutes ces familles, de reconstruire des liens, donc dans un premier temps, c'est ça le plus difficile. Puisque de l'autre côté, c'est vachement bien fait. Ça a été bien fait de défraterniser les gens, de les désolidariser pour dissocier les révoltes, hein, c'est aussi simple que ça. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec l'ARPI, c'est de retisser des liens avec les autres, les uns et les autres, et d'essayer d'amener un maximum de monde à réfléchir, à se dire, on est 500 000 familles, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tout au parloir, ça veut dire 66 000 détenus, chacun deux parents, peut-être des frères, d'accord, ça fait 500 000 personnes, c'est pas rien. C'est pas rien, si ces 500 000 personnes simplement se réunissent, réunissent leurs énergies, et ben, il y a un moment donné, il y a une force, une boule d'énergie qui doit servir à quelque chose.
Olivier Couetto, le journal L'Envolée.
Et puis L'Envolée, c'est donc une émission de radio parisienne qui est en contact avec d'autres émissions de radio un petit peu partout en France. Et c'est aussi un journal trimestriel, une radio anticarcérale et antijudiciaire, et même anti-le monde qui génère tout ça. Vous pouvez écouter sur Internet, rfpp.net, et vous procurez le journal à Saint-Étienne, il y a toujours des journaux qui sont déposés.
Freddy Brion, avocat au barreau de Paris et membre du collectif Libéré Vivant.
Voilà, moi je vais être plus court, hein, simplement moi, bon, je suis avocat au barreau de Paris depuis presque 17 ans maintenant, pénaliste, je fais beaucoup de pénal. Sensibiliser aux problèmes et au sort des personnes qui ont affaire à la police, à la justice, au personnel de sécurité et qui sont enfermés. Nous avons créé, c'est le premier collectif d'avocats avec des membres du personnel judiciaire qui a été créé. C'est la première fois que ça arrive, c'est le collectif Libéré Vivant, avec des avocats de l'ARPI également. Hein. Ce collectif qui a été créé suite à la mort d'un détenu dans des circonstances suspectes, qui a éveillé un petit peu nos consciences, nous, avocats. Et aujourd'hui, pour répondre à une interrogation que l'on m'a une interrogation d'une personne qui se trouvait dans la salle. Je suis pas là pour défendre la profession d'avocat, mais je suis là pour défendre le serment d'avocat. C'est pas la même chose, parce que bien souvent, on entend dans la presse, qui aujourd'hui n'est pas vraiment très libre, que les avocats, ils sont là que pour leur pognon. Bon, et tout ça, c'est pas vrai. On a un serment, comme un médecin. On a prêté un serment. On essaye vraiment de rester dans les clous. Certains font du droit des affaires, mais vraiment, les avocats que je connais, c'est pas pour les défendre. Quand on est pénaliste, véritablement, on essaie vraiment de rester dans le serment.
Il faudrait peut-être que je dise pourquoi ça s'appelle libérer vivant. Oui. Bah oui, parce que déjà, toi tu dis les libérés vivants.
Non,
libérés vivants. Alors ça s'est fait dans un bistrot avec les avocats, on sortait de la manifestation, on a bien réfléchi. Et le point commun que nous avons trouvé à toutes ces affaires entre les personnes qui sont mortes en prison, parce qu'au début c'était sur les morts suspectes, c'est de dire qu'ils sont rentrés, en tout cas Marlon Goodwill est rentré pour une courte peine de 4 mois de prison, il n'en est pas ressorti vivant. Et quelque part il a été condamné à une peine de mort déguisée. Le but de la peine, c'est de réinsérer en principe, le but d'une peine en tout cas. C'est bien pour ça que la peine de mort a été abolie, parce que ce n'était pas une peine. Il n'y avait plus de possibilité de réinsertion après la mort. Eh bien, le point commun entre toutes ces affaires, c'est lorsqu'on rentre en prison, on doit être libéré vivant. Et lorsqu'on rentre en prison, quelquefois, même lorsqu'on ressort, on est déjà mort. Parce que la mort, elle est aussi une mort psychologique. L'objectif, c'est que les conditions en détention doivent être modifiées. Les conditions de condamnation doivent être modifiées parce qu'il y a des possibilités d'éviter qu'on en arrive jusque-là au niveau de ces violences institutionnelles.
C'est des illusions à crédit, frais du côté du crâne râlé, du côté de ceux qui s'accrochent malgré tout. Comme dit le singe, y'a plus de lâche que de lâche rien. Y'a plus d'extorsion que de paix, y'a plus de gardien que de paix. Y'a plus de mépris que de raison, y'a plus de 4 millions d'histoires. Et y'a encore des prisons. Tant qu'il y aura des prisons, il y aura un maton dans mon crâne. Tant qu'il y aura des prisons, je me fous de la conquête de l'espace. Pas moi de civilisation, je te dirai comme je prends pas l'esprit. Je veux pas me mettre en vie, j'aime mieux être calme et tranquille. Mais j'y peux rien si ça me choque, moi, les wannabes, le chien. Tant qu'il y aura des prisons, il y aura un maton dans mon crâne. Tant que ma folie ordinaire me rappellera d'être vivant, je te dirai les mots vers le mot qu'on dit avec les nerfs. C'est pas d'hier que je loue, enfant du progrès bâclé, j'ai la haine de ce monde au bord des lèvres. Il est venu le temps de rappeler quelques habitants. J'entends le bruit des bottes et des brûleurs de livres, y'a comme des gorges à racler. La machine est à l'œuvre, la catastrophe à la clé. Des expulsions au débit, des vies raflées, des enfants au dépôt. C'est des prises d'ADN en force, c'est la chaîne, c'est la croissance de la Chine. C'est la République française. Je conjugue ma rage à l'absolu du subjectif. Pas vraiment à la page, je reste sujet objecteur. J'ai déterminé son nerveux, c'est l'imparfait qui fait merveille. L'œil cerné, le verbe acerbé, le pluriel rare comme l'air libre. Le fond de l'air est verdâtre, les têtes écrasent les vertèbres, les découvertes donnent le vertige. Je rêve de soleil vert qui décline, je rêve. Je rêve de bulles qui crèvent et déclenchent la déroute des clones. Tant qu'il y aura des prisons, je me fous de la conquête de l'espace. Pas moi de civilisation, je te dirai comme je prends pas l'esprit. Je veux pas me mettre envie. J'aime mieux être calme et tranquille. Mais j'y peux rien si ça me choque, moi, les wannabes ou chien. Tant qu'il y aura des prisons, il y aura un maton dans mon crâne. Quand ma folie ordinaire me rappellera d'être vivant, je te dirai les mots verts, les mots qu'on dit avec les nerfs.
Olivier revient sur le pourquoi du comment de la campagne contre les longues peines et les quartiers d'isolement.
La campagne, la mobilisation contre les longues peines et contre les quartiers d'isolement, effectivement, c'était pour redire toujours qu'en France, on condamne à des peines complètement insensées, à des peines de mort, à des peines de mort administratives. Hein. C'était des paroles de Trust en 1979, ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé en bien, en tout cas, ça a été en s'aggravant. Et contre les quartiers d'isolement, parce que généralement, quand on est face à une longue peine, il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. Il y a, quand on prend 30, j'ai même pas besoin jusqu'à 30, quand on prend 20, hein, enfin 10 longues peines, c'est pour qu'il y ait donné des chiffres, des peines qui sont même pas licites pour nous, la solution c'est quoi ? C'est de s'écrouler, prendre des médicaments, regarder la télé, de devenir un légume, il y en a, c'est sûr. Devenir fou à son corps défendant, enfin, fou, perdre les pédales à son corps défendant. Hein. Et puis, sinon, essayer de rester debout. Et quand on reste debout, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On pense à s'en aller, et ça c'est sûr.
Si je peux me permettre, eux, ils nous rendent fous.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'il y a quand même, faut dire, il y a des piqûres. Et qui les rend fous,
ouais.
Et des piqûres sous la force quand même,
ouais.
Et que même un détenu arrive à se pisser dessus, à être légume malgré lui, par rapport à la piqûre que la pénitentiaire leur fait de force. Donc si après ça c'est pas des traitements inhumains, il faudra que la justice est partie. Les citoyens, ils sont peut-être pas assez au courant de ce qui se passe derrière les murs.
Et donc où donc les tentatives d'évasion, qui sont des choses très très difficiles à réussir, hein, faut pas se leurrer. Une évasion, il y en a une, je ne sais pas combien qui fonctionne, et une cavale qui réussit, alors là c'est encore plus rare, hein, parce que les moyens en face sont complètement démesurés et qu'ils ont le temps, les flics en face, ils ont le temps pour eux, et ils prennent leur temps et rechoppent. La plupart du temps. Et quand on est rechopé, eh ben, on va passer des années et des années dans des quartiers d'isolement parce que d'un seul coup, la seule trouille de la pénitentiaire et du ministère de la Justice, c'est une nouvelle tentative d'évasion. Ils l'ont dit dans un procès, hein. On préfère 10 suicides à un évadé.
Il faut quand même dire qu'un directeur pénitentiaire, si un évadé, sa place, il peut être évoqué. Donc il préfère faire un traitement inhumain sur un détenu pour garder sa place.
Bien sûr, oui. Toute la politique, les lois successives, déjà, il n'y avait pas beaucoup de conditionnels en 2001-2002, mais il y en a eu, à chaque fois, il y en a moins. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir de sortie. Bien au contraire, les lois étaient votées successivement pour rallonger les peines, ça a été celle sur la récidive, puis ça a été les premiers délires sur les surveillances de sûreté, juste la surveillance, ensuite,
et
ensuite, hein,
les peines planchers,
bien sûr, ensuite est arrivée la loi sur la rétention de sûreté, qui est la dernière, la véritable délire, et tout ça est venu écraser encore un peu plus. À l'intérieur, c'est devenu aussi, ils n'ont jamais terminé avec ça. Enfin, ils sécurisent de plus en plus les tôles avec des technologies dites plus de pointe, c'est-à-dire des reconnaissances biométriques, l'ADN, quand on accepte de le donner, mais des fois on ne peut pas refuser.
La vidéosurveillance,
enfin bon, un tas de choses comme ça, des nouvelles brigades de flics spécialement dévolu à la recherche des gens qui sont pas rendus dans les prisons ou qui se sont évadés, enfin des fichiers qui se multiplient, tout ça on le sait, enfin voilà. Donc tout ça, évidemment, on le sait, ça a joué pour nous à l'extérieur, hein, c'est la même façon, la même aphasie, difficulté de parler à plusieurs et de s'organiser qu'on connaît, hein, et ben elle est forcément démultipliée dans un univers aussi coercitif que peut être une prison, et encore plus une centrale pour longue peine, où là il s'agit de tenir des mecs et des nanas pour celles qui existent, de les tenir alors que normalement ils n'ont plus rien à perdre. Rien. C'est-à-dire, quand on a 30 ans à faire devant soi, on n'a pas grand chose à perdre. Donc leur pari, il est là. L'isolement est l'outil le plus terrible de l'administration pénitentiaire, parce que il s'est vraiment généralisé. L'isolement, c'est pas que des quartiers dans les prisons. Ça commence par être la conception générale de l'architecture des nouvelles prisons. Ils font tout ce qu'ils peuvent, évidemment, comme c'est les prisons, ils entassent les gens. C'est pas pour eux, c'est pas si simple, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter de trop gros rassemblements de prisonniers entre eux, même dans la détention normale. C'est-à-dire que les mouvements sont prévus. La pire, c'est Corbas. Là, ils essayent, avec des systèmes magnétiques, des caméras, etc., qui regardent le passage, tac, une porte s'ouvre, l'autre se ferme. Pendant ce temps-là, il y a un groupe qui passe. Aucun autre groupe ne doit passer pendant ce temps, etc. Et tout, bon, évidemment, ils ont du mal à l'installer parce qu'il n'y a rien qui marche. Ils ont été tellement, en même temps, tant mieux, ils détournent l'argent des fonds publics, qu'ils ont gratté aussi tous là-dessus, sur la tôle, dans les constructions de tôle, donc du coup elle ne fonctionne pas, on va pas s'en plaindre.
Et il y a eu 200 mecs qui sont restés en promenade, ça n'a pas empêché un mouvement il y a quelques jours là.
Non mais carrément, maintenant les SPIP, ils n'osent plus y aller, parce que comme ils ne sont pas sûrs que s'ils rentrent, quand ils vont sortir, la grille elle va se réouvrir, ils ont peur de se retrouver enfermés dans les ailes de détention, et ils se disent, on va se faire étriper là, si on reste là dans le couloir, on va se faire étriper. Donc on veut évidemment, ils vont plus. Mais enfin bon, la conception elle est là quand même, donc d'arriver à construire là un isolement comme base architecturale de la détention. Les quartiers d'isolement, c'est aussi depuis très longtemps là une autre prison dans la prison où les prisonniers ne voient quasiment personne sauf des matons. Il n'y a pas encore si longtemps, ils avaient, avec l'aval, il fallait montrer patte blanche de la direction, ils pouvaient se retrouver à deux pour faire du sport ou des choses comme ça. Mais pour ceux qu'ils appellent les plus dangereux, ça c'est niette, ils se retrouvent tout seuls. Et ça peut durer un isolement comme celui-là, il peut durer 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans, consécutif. Il n'y a pas de limite, puisque c'est reconductible année après année. Il suffit de le motiver pour l'administration pénitentiaire, il suffit de dire qu'il est toujours aussi dangereux, il cherche toujours à s'évader, il est toujours en train de fomenter un mouvement, enfin, etc. Donc, il faut le maintenir en quartier d'isolement. Et puis la troisième forme d'isolement, ça c'est leurs nouvelles expériences. Pour l'instant, elles concernent une personne, mais il n'y a pas de raison que ça n'en concerne pas plus assez rapidement. Là, pour le moment, elle concerne Antonio Ferrara, qui lui est enfermé au dernier étage d'un bâtiment de Fleury-Mérogis, le D5, que les prisonniers ont appelé Guantanamo. Et donc là, c'est vraiment l'isolement dans l'isolement. C'est-à-dire que lui ne voit jamais, jamais, jamais personne à part ses ennemis, à savoir les matons, qui le font bien sentir d'ailleurs. Quand il sort de sa cellule, il est entravé, même pour aller à la douche, hein, il est entravé au pied, menotté dans le dos, encadré par des héris. Les héris, c'est les super matons qui a voulu le GIGN de la pénitentiaire. Et il l'emmène à la douche comme ça. Il reste avec lui, ils sont trop gentils, ils lui enlèvent les menottes pour qu'il puisse se laver. Mais il reste autour de lui, dans la douche. Et il le ramène de la même façon. Tous ces déplacements hors du bâtiment sont faits avec un casque sur la tête, des bouchons dans les oreilles, c'est-à-dire pour qu'ils ne voient pas, qu'ils n'entendent pas, qu'ils n'aient aucun repère spatio-temporel d'une sorte, toujours évidemment entravés de la même façon. Les parloirs ne sont plus hygiophones avec sa mère, et ça depuis peu, hein, ça ne fait pas si longtemps. Hein. Il l'enferme dans une aile entière de Fleury-Mérogis, où il est seul dans l'aile, il y a lui et des héris qui dorment là dans les autres cellules autour de lui. Voilà, ça c'est leur tentative sur Nino qui sert de cobaye.
L'expérimentation.
L'expérimentation pour voir comment on peut tenir, jusqu'à où on peut tenir. et ce qu'ils vont pouvoir en faire par la suite. Et c'est pas, voilà, c'est Nino Ferrara, c'est juste quelqu'un qui a...
Comme Nadir Ripper, un petit bonhomme qui a fait un trou dans un mur.
Ouais. Ils sont en train de construire deux centrales à haute sécurité, là, en France. Les lieux sont là, les travaux ont commencé, ils n'ont pas encore fini. Il y en a une qui est dans le nord de la France, à côté de Lens, et l'autre est à côté d'Alençon. Et ces deux centrales-là sont prévues pour des toutes petites capacités de personnes, c'est-à-dire 30. Les centrales, ils vont mettre 30, 40 personnes, avec un personnel pénitentiaire juste en maton. Je ne parle pas du personnel administratif, de 3 matons pour un prisonnier. Et là, avec aucune rencontre possible entre prisonniers. Hein. Et ça, ces prisons-là, elles sont réservées, et ben, elles sont réservées à tous les boucans, c'est-à-dire tous ceux qui foutent,
c'est ce qui réfléchissent, bordel, qui peuvent réfléchissent,
fédérer, qui se tiennent debout, quoi, encore, simplement. Et à ceux qui essayent de s'évader. Leur projet est de les enfermer là. Alors, c'est sûr que Nino, il sert d'expérimentation pour voir jusqu'à où ils pourront aller dans l'organisation de ces deux centrales qui finiront bien par voir le jour dans les années à venir. Si, enfin, qui verront le jour, c'est pas, y a rien de fatal, hein, c'est encore une fois, ça c'est aussi, ça dépend aussi d'autres choses, ça, ces prisons, elles peuvent, il peut y avoir un mouvement qui empêche la construction de ces prisons, il peut y avoir un tremblement de terre ou une explosion qui l'empêche aussi, enfin, il peut y avoir 10 000 choses différentes qui fassent que ces prisons ne voient pas le jour. En tout cas, s'il ne se passe rien, si dehors il n'y a rien et si dedans aussi il n'y a rien du tout, c'est comme ça que ça va. Ça va se passer.
Freddy nous explique l'affaire Marlon Goodwin qui est à l'origine de la création du collectif Libéré Vivant.
Je pourrais parler de cette affaire Marlon Goodwin. Il a été sacrifié par des on le sait aujourd'hui, par des personnels de la prison. Pour synthétiser, en juillet 2009, le 11 juillet, ce garçon de 32 ans est découvert pendu dans sa cellule dans un quartier disciplinaire. Sa famille est prévenue deux jours et demi plus tard, le 13 juillet au soir, lorsque tous les bureaux sont fermés. On sait que le lendemain, c'est le 14 juillet, ils n'ont aucune possibilité de se retourner, de savoir ou même de voir le corps de leur fils. Les seuls référents qu'ils ont, c'est les avocats qu'ils appellent le 13. Et nous sommes saisis le 13 juillet de cette affaire. Nous appelons la chancellerie. Et le 14 juillet, nous obtenons que la famille puisse voir le corps de leur fils le mercredi 15 juillet au matin, je m'en rappelle encore. Et à partir de là, va se jouer une affaire qui, à mon sens, est une affaire d'État, une affaire extrêmement grave pour la République, parce que on se rend compte que une administration qui dépend du ministère de la Justice, puisque l'administration pénitentiaire dépend de l'administration de la Justice, cette administration va être couverte. La famille ne va pas pouvoir voir le corps de ce garçon, simplement le haut du visage. Il a fallu que nous faisions des pieds et des mains pour avoir une enquête qui va déboucher en septembre sur un classement sans suite. La famille va nous demander de faire des investigations privées, c'est-à-dire de saisir nos propres experts, payés par les personnes privées. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire, grâce à ces expertises, que ce garçon a été tué dans la prison. C'est un homicide volontaire. Nous avons une expertise qui montre que les déclarations qui ont été faites dans cette prison sont de fausses déclarations, que ce garçon, pour lequel on a trouvé 6 fois la dose mortelle de Subutex dans le sang, eh bien, ce garçon n'avait pas consommé de Subutex avant sa mort. C'est-à-dire que nous avons une analyse toxicologique dans cette affaire qui montre qu'on lui a administré avant sa mort, on lui a administré une dose de Subutex mortelle par intraveineuse. Donc c'est une affaire extrêmement grave et c'est cette affaire qui nous a conduit à créer ce collectif. Lorsque des personnes qui sont des citoyens, comme vous et moi, eh bien, lorsque des personnes se trouvent confrontées à la justice, c'est pour ça que ce collectif a été élargi à d'autres problèmes de sécurité, d'autres problèmes qui se posent dans les commissariats ou dans la vie courante. Lorsqu'on se trouve confronté à l'institution, eh bien, le simple particulier a besoin d'une aide. Parce que l'institution, c'est quelque chose qui vous broie. Et lorsqu'on n'a pas les moyens de se défendre, comme cette famille, si on n'était pas intervenu, on ne saurait pas aujourd'hui, grâce au prélèvement que nous avons effectué sur les cheveux, grâce à ces experts indépendants qui ont accepté de faire des analyses, on ne saurait pas aujourd'hui que le rapport toxicologique qu'on nous a donné, que l'Institut médical nous a donné, ne correspond pas à une réalité de ce qui s'est passé exactement dans cette prison. Plus grave, nous avons fait des investigations qui montrent que ce garçon qui s'est pendu avec un drap n'a jamais manipulé le drap. Donc on se demande comment il a pu se pendre avec un drap qu'il n'a pas touché.
Ouais, tu disais donc tout ça pointe les graves dysfonctionnements de la prison. C'est la première fois qu'un avocat dépose plainte pour homicide volontaire contre l'administration pénitentiaire. C'est un peu exceptionnel. Normalement, c'est toujours un homicide involontaire. C'est jamais de la faute de personne. Enfin bref, j'ai un vrai tabou autour des morts suspectes et des morts tout court en prison. Mais au-delà de tout ça, il ne faut pas oublier que quelles que soient ces morts suspectes, suicides, etc., c'est la prison qui le produit.
Et ce qu'on voit, par exemple, dans l'affaire Goodwin, c'est que à la fois les longues peines, mais les courtes peines sont devenues un processus d'élimination. Ce garçon qu'on a retrouvé pendu avait 4 mois de prison et il est ressorti mort. Alors vous imaginez les longues peines. Quand on se pose la question sur les courtes peines, on est obligé d'avoir peur. Pour les longues peines. On est obligé de se dire, mais ceux qui restent 4 mois se pendent. Alors ceux qui restent 10 ans, comment ils font? Il faut s'interroger là-dessus. Ils deviennent des criminels? Ils deviennent quoi? On les soumet à une violence, parce que dès l'instant où l'on rentre en prison et qu'il n'y a pas des conditions, les conditions de la sortie, le premier projet, s'il y a un carcéral, c'est qu'il y a une sortie, il y a la liberté. Alors c'est vrai que je parle de ce qui se passe depuis 2002, on est passé à une révolution ultralibérale. Bon, la révolution ultralibérale, c'est protéger le patrimoine et faire croire aux gens, à la ménagère de base, qu'elle est en danger partout. Donc on a réussi à faire peur à la ménagère de base qu'elle est en danger partout. Mais aujourd'hui, la ménagère de base, il faut qu'elle sache qu'elle est en danger avec l'État. Parce que son fils, son mari, son père, sa fille, son ami peut se retrouver en prison dans un système de violence institutionnelle.
Il n'y a pas besoin d'avoir forcément un proche en prison pour s'interroger s'intéresser au sujet. Faut bien se dire que la prison, c'est l'exact reflet de la société à l'extérieur. Et tout ce qu'on accepte pour nos prisons, immanquablement, invariablement, on le retrouve à l'extérieur. Donc il y a un moment, il faut se poser des questions. Mais quand je dis des trucs comme ça, faut penser à un autre monde, une autre façon, une autre forme de sanction, etc. T'es utopiste. Et ce matin, t'as dit une chose très juste. T'as dit les utopistes. C'est pas nous, c'est pas toi ou moi quand on dit on pense à un autre monde, une autre forme de... D'accord ? C'est ceux qui pensent qu'avec des réformes, avec des aménagements, repeints... L'enfer, ça se redécore pas, quoi. Ça se détruit à un moment donné. Les utopistes, c'est ceux qui pensent qu'à base de réformes, on va arriver à quelque chose de meilleur. À des prisons humaines. Par essence, une prison, ça peut pas être humain. Voilà. Donc... Moi, je dis que si on arrive à retisser des liens les uns avec les autres, en gardant chacun nos spécificités, nos idées, et en avançant sur un objectif commun, à savoir, on sait qu'on arrive au bout d'un truc, là, il faut que ça pète, il faut que ça change. Et, on est dans une espèce de fatalité. Oh, c'est impossible, c'est pas faisable. Si on se dit tout ça, il est évident qu'on ne changera jamais rien et que ça va empirer. Ça ne peut qu'empirer en l'état, puisque en ce moment, on parle partout de la prison depuis un bon moment. Mais quand on regarde, ça parle de la prison sans jamais en parler vraiment. C'est-à-dire que comme le reste, ça devient quelque chose, c'est banalisé. On ne peut plus dire aujourd'hui quelque chose sans qu'on vous dise « Ah oui, mais les victimes, t'en fais... » Tu penses aux victimes ? Je me suis retrouvé sur un plateau avec Hortefeux au Grand Journal, pour ne pas le citer. Et c'était après l'évasion de mon fils au mois de février. Et il me dit, mais madame, il me dit, je suis d'accord, c'est douloureux, c'est votre fils qui s'est évadé. Je lui dis, monsieur, il ne s'agit pas de mon fils. Il s'agit, pour l'instant, on parle des longues peines, il s'agit de minimum 7000 hommes qui n'ont aucun horizon et qui préfèrent tenter de s'extraire d'une situation inextricable en risquant leur vie plutôt que mourir dans la tombe qu'on leur a préparée. Et il me dit, mais vous pensez, madame, aux victimes? Je lui dis, justement, moi j'y pense, vous ne les respectez pas, vous. Le mec, il est devenu blanc, il n'a pas l'habitude en plus, sorte veut. Je lui dis, vous ne les respectez pas. À partir du moment que vous vous servez des victimes comme bouclier humain pour occulter une réponse à une question sociale, ne venez pas me parler, c'est pas à moi qu'il faut parler des victimes. Et j'ai dit à un moment donné, il faudra arrêter cette simple logique rétributive, faire croire à des gens qu'avec une rétribution, on va apaiser leur peine. Si on ne prend pas vraiment leur souffrance en compte, c'est ce que je vais sortir à ce moment-là, ça ne sert strictement à rien. On reste dans une espèce d'échange de loi du talion et on n'en sort pas. Donc il ne faut pas se laisser phagocyter par ce discours ambiant de la victimisation à tout prix et se dire, à un moment donné, on va réfléchir ensemble à une autre forme de sanction. La prison, elle n'a pas lieu d'être. On voit bien que c'est un échec total, quoi, la prison. Même si elle remplit parfaitement son rôle social, c'est-à-dire faire peur aux petits prolétaires de base et qui soient accrochés à son petit job, à ses petits crédits, etc. Elle ne sert à rien. C'est insupportable pour moi, la mauvaise mère, de voir ce qu'on fait à des gens en prison et à leur famille surtout. C'est insupportable parce que je sais que ça se passe de la même façon de l'autre côté du mur, dans la société. Et que tant que on prendra pas un miroir et on regardera pas en face l'enfermement en général, hein, la psychiatrie, etc., etc., et ben on se prépare. Nous, les murs, on se les fabrique dehors. On est vraiment des masochistes, je crois, à un moment donné, si on se bouge pas.
Voilà, donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne. Donc là, je rappelle, ce qu'on vient d'écouter, c'est des morceaux choisis de la journée rencontre-discussion contre les longues peines et les quartiers d'isolement que Papillon a organisé samedi 28 novembre. Voilà, la chanson qu'on a entendue au milieu, c'était un morceau d'Insolite. Voilà, un petit groupe de hip-hop. Et sinon, bah, désolé pour les bruits de fond. Je ne sais pas si vous les entendiez depuis chez vous. C'était un peu pénible, mais on n'a pas pu faire autrement. C'est le bruit du radiateur.
Bah, ça faisait du bien de réentendre tout ce qui s'est dit à ce moment-là, samedi dernier. Je trouve que ça file la pêche. Et puis, y a plein de gens qui essayent de faire bouger les choses. Et c'est rassurant, quoi. Ouais. Je trouve, ça fait du bien aussi de se dire, bah, t'es pas tout seul. Et même à Paris, ils font des trucs. Et ouais. Bah, c'est chouette, quoi.
Absolument.
Et moi, je voulais conclure sur un petit truc. C'est que sur une affiche qui avait été collée par rapport à cette campagne, il y avait écrit « Et les victimes, vous y pensez, on n'en parle jamais, vous parlez que des salauds, d'assassins, nanana. » Et en fait, bah, justement, comme dit Catherine dans le montage, c'est pas qu'on pense pas aux victimes, c'est qu'elles sont utilisées dans les discours médiatiques. Donc déjà, victime, c'est entre guillemets, parce qu'on n'est pas forcément une victime. Et elles sont utilisées pour justifier la prison. Et nous, ce qu'on veut montrer dans cette émission, et donc ça se fera au cours des mois et des années, c'est en fait, on veut poser la question, est-ce que envoyer des gens en prison dans de telles conditions et les faire enfermer pendant des années et des années, voire 30 ans, voire les laisser crever là-bas dedans, est-ce que c'est ça qui fait du bien aux victimes? Ben voilà, c'est la question, quoi. Voilà.
Bon.
Je me suis enflammée.
Vas-y, continue.
Ah oui, non, je me suis enflammée, je ne savais plus qu'est-ce que je devais dire. Oui, on voulait rappeler pour les gens qui vivent des trucs trash ou qui ont envie d'en témoigner ou d'aide,
faut vraiment pas hésiter à contacter des gens comme le collectif Libéré Vivant, comme l'ARPI, comme l'Envolée, ça c'est plutôt pour témoigner et changer des points de vue, et comme nous, Papillon. Donc à la fin de l'émission, on rappellera nos contacts, et voilà. Et maintenant, eh bien, nous voulions... Tu voulais dire un truc ?
Non, je disais justement, par exemple, où plein de gens peuvent être confrontés à un moment donné des morts pensées comme suspectes, etc. Et que le collectif comme Libéré Vivant, c'est super important pour ce genre de choses, parce qu'ils ont aussi les outils juridiques à un moment donné pour continuer des procédures, etc. Donc voilà, c'est juste, n'hésitez vraiment pas à les contacter, même si eux sont à Paris, etc. Ça leur pose absolument aucun souci.
Voilà. Donc on tourne la page sans la tourner, puisque ces combats continuent. Et puis là, on va parler d'autre chose, mais c'est aussi en lien. Tu parles d'enfermement, etc. Quoi. Ouais.
Moi, je voulais parler en fait des personnes qu'on dénomme des sans-papiers. On relaye régulièrement les luttes, que ce soit la lutte des migrants, comme on avait parlé à Calais, ou différentes luttes de sans-papiers, que ce soit locales ou nationales. Et donc, on avait relaté les événements en fait, qui avaient secoué le centre de rétention, les centres de rétention, que ce soit Ménilamno et Vincennes en 2008. Et moi, je voulais vous parler plus particulièrement du centre de rétention de Vincennes, donc, qui s'était terminé par un joli brasier, en fait, qui avait pratiquement incendié l'intégralité du centre de rétention. Donc ça, c'était en juin 2008. Et donc, il y a des personnes qui vont passer en procès au mois de janvier. Et donc, je voulais parler donc, des événements de l'incendie jusqu'aux suites judiciaires, justement. Je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a pas mal d'informations. Donc, le 20 juin 2008, il y a une personne retenue qui meurt dans des circonstances troublantes, en fait, dans le CRA de Vincennes, donc centre de rétention administratif. Les premières constatations parlent d'une détresse respiratoire aiguë. Cette personne, en fait, s'appelait Salem Souli. Il faut savoir que tout le week-end, en fait, cette personne était suivie pour je ne sais quelle maladie. Donc, il avait réclamé tout le week-end ses traitements qu'il n'a jamais eu. Donc, ça, c'était le 20 juin. Le 21 juin, donc le lendemain, cette mort s'est su à l'extérieur. Donc, il y a eu une manifestation qui se déroulait donc, aux abords du centre. Et à l'intérieur, des retenues, j'aime pas ce terme, mais des personnes détenues plutôt à l'intérieur, ont commencé à dégrader le locaux. Ouais, quand tu lis, c'est souvent...
Les retenues, ouais, ça craint, ouais. Des prisonniers...
Voilà, on va dire des détenus. Et ont commencé à dégrader les locaux, donc cassant portes et fenêtres et rassemblant les matelas à plusieurs points de bâtiment, signe de protestation. Ça a été fortement réprimé. Dans l'après-midi de cette même journée, plusieurs départs de feu... entraînant progressivement la destruction de deux bâtiments du centre. Donc voilà. Les différentes associations dénonçaient en fait depuis très longtemps l'aboutissement de plusieurs mois de tension, avec régulièrement des départs de feu, des tentatives de suicide et des interventions policières multiples. J'ai pas eu de... La plupart, voilà, une partie du bâtiment a été incendiée. Donc beaucoup de détenus ont été emmenés dans un autre centre de rétention, que ce soit Nîmes. Et beaucoup de personnes, suite à ça, en fait, j'ai l'impression, sont un peu volatilisées dans la nature. Je n'ai pas trouvé énormément d'informations. Et donc, suite à ça, 10 personnes ont été poursuivies. Et elles vont faire entre... Il y a beaucoup d'informations, je vais essayer d'être à peu près concis. Et pour 7 d'entre elles vont faire 8 mois de détention provisoire. Une personne est toujours incarcérée et 2 sont en fuite. Donc voilà, une enquête a été menée et la famille de Salim, donc la personne qui est morte, s'étonne du classement de l'enquête sur sa mort, qui est pourtant à l'origine de ses troubles. Et la défense des 10 personnes dénonce une instruction à charge. Les avocats indiquent qu'ils n'ont pas pu avoir accès aux enregistrements des caméras de surveillance sur lesquelles sont fondées les accusations. Ce sont les policiers eux-mêmes qui ont fait l'instruction et non le juge, puisqu'ils ont sélectionné les photos tirées de ces bandes. Ils ont demandé en vain les expertises des matériaux utilisés. J'ai relevé une parole d'avocate qui disait que c'était un dossier complètement carencé, avec une instruction menée uniquement à charge et qui n'a consisté qu'à arrêter des gens car il fallait trouver des coupables et les placer dans des longs mois de détention provisoire. Donc, suite à cette enquête, le juge d'instruction a demandé à faire un renvoi de l'affaire en correctionnel. Et donc, ces personnes passeront toutes les 10, le 25, 26 et 27 janvier 2008 à Paris pour leur participation présumée à l'incendie, pour destruction de biens par incendie et pour certains violences sur agents de la force publique. Et il faut savoir qu'avant ces périodes, donc 25, 26, 27, le 1er décembre, donc c'était en début de semaine, il y a eu l'audience de fixation des dates du procès. Et les avocats en ont profité en fait, pour appeler la nullité de l'ordonnance de renvoi, demander l'allègement des contrôles judiciaires pour tous et la remise en liberté du dernier inculpé. Donc cette personne s'appelle Nadir Othmani et il est possible de lui écrire, je vais rappeler l'adresse. Et il faut savoir que celle-ci est maintenue en détention, il a été maintenu en détention faute de représentativité et que c'est lui qui avait mois de début d'année non, je suis en train de dire des bêtises. En fait, bref, il avait été hospitalisé suite à une grève de la faim qu'il avait entamée pour dénoncer son enfermement. Et qu'il n'a toujours pas eu de demande de parloir et qu'il vient de fêter ses 20 ans en prison. Donc il est possible de lui écrire. Donc cette personne s'appelle Nadir Othmani. Donc Othmani, ça s'écrit A-U-T-M-A-N-I. Et il est écroué, donc l'écrou numéro 946622, deuxième division Maison d'arrêt des hommes, 5 allée des Tuyas. Donc Tuyas, c'était H. U-Y-A-S, et c'est 94 261 Frennes-Sedex. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai été à peu près clair.
Oui.
Mais j'essaierai de le rappeler à la prochaine émission. Si on tombe avant le 25, 26, 27, je rappellerai justement qu'il va y avoir un appel à soutien de ces personnes.
On tombera pas avant. Ah si.
Si,
si, si, je pense, on tombera début janvier.
Ouais. Et tout ça pour, vas-y, que ce soit Laetitia ou Olga.
Non, du coup, c'était juste pour enfin profiter pour dire que la prochaine émission, donc au mois de janvier, je ne sais plus combien on sera.
Le 3, ouais.
Le 3 janvier, en fait, elle se fera en collaboration avec le collectif des sans-papiers de Saint-Étienne. Et la prochaine émission donc portera plus particulièrement sur les pratiques des avocats. Comment se défendre le mieux possible, les petites astuces, etc. Mais aussi comment ça se passe concrètement quand on a à se défendre, etc. Les petits trucs à savoir qui sont pas toujours très cool, etc. Donc voilà, la prochaine émission sera avec le collectif des sans-papiers.
Et ce sera une émission pratique, en fait. Quand contacter l'avocat, quand il ne faut pas le faire, combien ça coûte. Enfin bon, que des détails bien, bien techniques. Voilà. Et toujours pour parler des sans-papiers, le collectif des sans-papiers organise mardi 8 décembre à 19h30 au Cinéma Le France une soirée projection d'un film qui s'intitule « Conakry, la révolution orpheline » pardon, de Gilles Nivet. Alors, c'est un documentaire qui parle de la Guinée. Donc ce sera une soirée discussion avec le réalisateur et des ressortissants guinéens, ainsi que le collectif des sans-papiers. Donc voilà, c'est à 19h30 au France. Le film est projeté autour de 20h. Voilà.
Il y a des beignets.
Pardon ?
Il y a des beignets.
Il y a des beignets, ouais.
Ouais. Non, faut être chaleur.
La bière aussi.
Ouais.
Mais c'était pas des beignets que je voulais parler, en fait. C'était juste pour préciser que cette soirée-là, elle se fait dans l'idée d'un cycle, en fait, où je crois, sans dire de bêtises, il me semble, où ça sera tous les deux mois, en fait, une projection, discussion aux France. Voilà, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Voilà.
Enfin, non, pas que l'Afrique.
Autour d'un pays où des gens peuvent avoir envie de parler en fait de la situation, etc. Mmh.
Et bah, de toute façon, si on les invite en janvier, on pourra leur poser la question.
Oui, oui, on pourra en reparler en janvier aussi.
Ok, là on continue quoi avec l'agenda ?
Allez.
Alors,
déjà un peu l'agenda.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Alors en petite nouvelle, il y a le nouvel envolé qui vient de sortir, le numéro 26. Donc, vite fait, un peu au sommaire, justement, il y a un petit point qui revient sur les luttes dans les CRA, donc les centres de rétention administrative. Je fais vite fait, brièvement. Donc, il y a un point sur les suicides, sur la nouvelle loi pénitentiaire, sur les nouvelles prisons, partenariat public-privé, sur le contrôle judiciaire. Et sinon, oui, comme on a parlé des luttes dans les quartiers d'isolement, il y a aussi un point sur la Belgique. Donc, voilà. Et c'est un numéro qui est... sur celui-là particulièrement, qui est vraiment
composé d'énormément de lettres. Donc il est assez intéressant, il y a beaucoup de lettres dans l'intérieur. Donc l'envolé, on peut le trouver quand nous on fait des manifestations, donc c'est un peu plus aléatoire. Sinon vous pouvez le trouver dans un point fixe, c'est à l'étrange rendez-vous, donc c'est la librairie de bande dessinée, qui se trouve à côté de la Bourse du Travail, c'est au 1 rue Fort-Belon, voilà.
Et peut-être, comme pour une fois on a le temps, on peut rappeler leur adresse à l'envolée,
ouais.
Pour les gens qui veulent soit leur écrire des courriers sur la tôle, ou pour essayer de le commander, parce que même s'il ne rentre pas en prison, ou très peu parce qu'il est censuré, il peut éventuellement rentrer, donc c'est bien d'essayer. Alors,
l'adresse de l'envolée, donc, c'est 43 rue de Stalingrad, 93 100 Montreuil. Et ils ont une adresse email aussi, c'est envoléjournal, tout accroché, @yahoo.fr. Donc voilà. Et les numéros sont aussi consultables sur leur site, donc sur Google, vous tapez journal envolé et vous avez les PDF, tout ça, pour le lire.
Alors apparemment, ils rentreraient à la Talo.
Ça dépend des fois.
Ça dépend des fois.
Voilà. Mes numéros très intéressants. Voilà.
Sinon, on va enchaîner donc avec un petit rappel. N'oubliez pas les mercredis, donc toujours sur Radio Audio, il y a l'émission La Clé des Ondes. Donc c'est une émission dans laquelle vous pouvez appeler pour laisser en direct des messages téléphoniques à destination des prisonniers et prisonnières de la Talaudière. L'intérêt, c'est que même s'ils n'ont pas de poste, normalement, ils peuvent l'écouter parce que ça passe sur le canal interne, donc sur les petites télés, comme quoi les télés sont utiles en prison. Et donc voilà, donc si vous voulez appeler, c'est tous les mercredis de 17h30 à 19h. Le numéro de téléphone, c'est 04 77 438 895. Voilà, donc je le répète, 04 77 438 895. J'ai oublié un truc sur la clé des ondes ou pas?
Les horaires.
Les horaires, le mercredi de 17h30 à 19h.
D'accord.
Voilà.
Moi, je veux juste faire un petit rappel vite fait sur l'envolée. L'envolée, il est gratuit pour les détenus. Donc même s'il a un peu de mal à rentrer, n'hésitez pas à faire la demande. Donc soit vous contactez directement l'envolée, sinon vous pouvez aussi passer par nous et on fera tourner l'info. Voilà.
D'ailleurs, votre adresse.
Voilà. Alors là, c'était vraiment très, très beau.
Quel bel enchaînement.
Alors, l'adresse, vous pouvez écrire donc à Émission Papillon, chez Radio Audio, 14 rue de Roubaix, BP 51, 42 002, Saint-Étienne, CEDEX 1. Je vais peut-être répéter. Émission Papillon, chez Radio Audio, 14 rue de Roubaix, BP 51, 42 002, Saint-Étienne, CEDEX 1. Pour ceux qui ont Internet, vous pouvez aussi écrire à l'adresse mail émissionpapillon, tout attaché, @riseup.net, c'est R-I-S-E-U-P. Et puis, au niveau des rediffusions, peut-être...
Ouais, juste dire, pour les détenus qui nous écrivent, on peut leur faire tourner des timbres aussi. Si nous écrivent, on leur enverra. Ouais.
Oui,
enveloppe timbrée.
Voilà, une enveloppe timbrée.
Il n'y a pas de billet dedans.
Non.
Dans l'enveloppe, d'accord.
Bon, il y aura un petit mot, ça sera déjà sympa.
Ok.
Et donc, au niveau des rediffusions, alors il faut faire attention parce que du coup, on n'est plus rediffusé au même moment. Et donc là, ça sera vendredi 11 décembre à 10h30.
Voilà.
Voilà. Et on est aussi, enfin, l'émission Papillon est aussi rediffusée à Lyon, sur Radio Canu. Et là, ça sera le mardi 15 décembre à 20h.
C'est le troisième mardi.
C'est le troisième mardi du mois. Ah, et ça. La fréquence, je ne sais pas.
102.2.
J'avais oublié ça.
Bravo.
Et justement, par rapport à cette rediffusion, d'où le problème encore des nouvelles tôles excentrées des centres-villes. Donc, nous on est rediffusé sur Radio Canu qui à Lyon qui émettait donc qui touchait la prison Saint-Paul et visiblement Radio Canu ne touche pas la prison de Corba parce que c'est beaucoup trop loin pour l'émetteur de Radio Canu. Donc voilà, donc en tout cas ça n'empêche pas de faire tourner l'info et toujours nous contacter si besoin.
Voilà.
On va peut-être rappeler la prochaine émission aussi.
Hein?
La prochaine émission.
Et eh ben, elle tombera le dimanche 3 janvier. Donc Papillon avec le collectif des sans-papiers. Donc Papillon, c'est tous les premiers dimanches du mois pour ceux qui étaient tombés par hasard dessus à 17h30.
Et vu qu'il reste un peu de temps et qu'on a parlé que de choses super tristes, enfin super glauque tout le long. Enfin, je sais pas si j'ai le temps, mais bon.
Vas-y, fais ta
place. Il y a un truc qui s'est passé courant novembre qui est assez drôle. C'était à la maison d'arrêt de Rouen. Il y a un détenu. Alors, on pense toujours qu'il faut faire des plans de dingue pour pouvoir s'évader avec des explosifs et tout. Mais il y en a qui arrivent de manière beaucoup plus simple. Il y a un détenu qui bossait dehors, qui sortait les poubelles de la prison, je sais plus que ce qu'il faisait dehors, en gros, il travaillait, qui a réussi à prendre les clés de voiture du maton qui l'accompagnait dehors. Il lui a pris les clés de voiture et il s'est barré avec.
Yeah.
Donc comme quoi, c'est encore possible de se aller. Bon, il s'est fait rechoper 4 heures plus tard parce qu'il s'est baladé avec son frère dans le centre-ville. Donc ça, ne le faites pas si vous partez, allez très loin. Mais voilà, c'est possible encore, sans trop se prendre la tête.
Le culot, toujours.
Bah, moi, pour finir, je voudrais passer un grand bonjour aux gens qui nous écoutent, notamment depuis la Talaudière, et bon courage à eux et à elles. Et puis, en particulier, une grosse bise à Nabil et à bientôt. Et vous avez un truc à rajouter ?
Non, passe un bonjour à tout le monde et courage.
Ouais.
Si moi je veux bien rajouter un truc. On avait relaté les événements, enfin pas les événements, je sais pas, tout ce qui se passait en fait dans les prisons pour mineurs, en fait les EPM. Et si des gens sur Lyon nous écoutent ou même sur Saint-Étienne savent un petit peu ce qui se passe, parce qu'on n'entend absolument plus parler, malheureusement, à part quand un jeune se suicide. Donc j'aimerais envoyer. Si des gens ont des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire, toujours à la radio, en ce qui concerne les EPM.
Oh ouais, c'est bien.
On va laisser l'antenne ?
Ouais, allez, pour une fois qu'on est à l'heure, autant le rester.
Et une grosse bise, Nabil. Bon,
voilà, à la prochaine, c'était Papillon.
Salut.
Salut à tous. Allez, joyeuse fête. Hein. Ouais. Cette circonstance.
C'est en larmes si vrai t'es là. Pas dit je crois. On a 10 mètres, on va percler. Du gros lato, du lastoto, du gros molo. Café qui signe.